Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, là, si je parle comme ça? On a un point commun avec l'église d'Antibes. Alors d'abord, je suis très heureux d'être là parmi vous. Et vous m'entendez pas? Si? Ah bon, j'ai entendu plus fort. Voilà, donc je voudrais vous apporter les salutations d'abord de l'église d'Antibes. Donc on est dans le cadre d'un échange de chaires. Et puis, j'ai remarqué que dans nos églises, on a un point commun, Antibes et nous, c'est que les rangs de devant sont toujours vides. Je ne sais pas pourquoi, mais on a une... on a une orientation guidée à s'asseoir toujours devant dans les, derrière dans les églises et pas s'asseoir devant. Alors je m'adresse peut-être plus aux gens du fond. Voilà, en tout cas, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous m'avez apporté. On se sent famille, c'est sympathique, et on se sent un peu comme à la maison, on se sent en famille, et c'est vraiment une bénédiction de Dieu. J'ai à cœur de vous apporter un petit, une réflexion sur la grâce. Alors, je ne sais pas comment vous, on va pouvoir voir. Mais apporter une petite réflexion sur la grâce pour que nous puissions avoir un service pour Dieu qui soit renouvelé et qui soit animé par Dieu, par Jésus-Christ, notre Dieu. Alors pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est vrai que Dieu n'a pas besoin de nous. Hein, on le voit dans Acte 17, alors je ne sais pas si tu peux afficher... Juste, je vous mets les versets là-haut, comme ça, ça évite de regarder. Peut-être que ce qui est important, c'est de retenir au moins les versets. Mais voilà, ce Dieu qui a créé l'univers entier, tout ce qui s'y trouve, donc n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Hein, voilà, donc Dieu n'a pas besoin de nous dans l'absolu. Hein, parce qu'il est dit qu'il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Mais au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. Alors c'est vrai que dans l'absolu, Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous veut quand même à son service, parce que c'est une conséquence incontournable de son appel pour nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, hein, etc. Vous connaissez ce verset à fond. Mais ce que je voudrais développer ce matin, c'est que avant de se lancer tête baissée dans le service pour Dieu, eh bien, il veut avec moi, avec nous, il veut avec chacun de nous une relation de cœur à cœur. Dieu, le Seigneur, veut une relation proche avec nous, une relation de proximité. Pas une religion, pas une foi basée sur un système de pensée même biblique, hein. Pas un savoir biblique. C'est bien le savoir biblique, mais Dieu veut plus que ça. Dieu, il veut nous connaître. Et donc, il nous a placés au bénéfice de son amour et de sa grâce, pour jouir de cette relation intime avec nous. Dieu veut savourer cette relation avec nous avant tout. Donc avoir cette relation proche. Dans Jean 17, 3, il est dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et vous connaissez certainement mieux que moi le sens de ce verbe « connaître », qui va beaucoup plus loin que « savoir ». « Savoir », c'est une chose. Mais connaître, c'est autre chose. Je peux savoir des choses sur le maire d'Antibes, Jean Leonetti, par exemple. Mais si demain je le rencontre et que je fais sa connaissance et que je lui parle et qu'il y a un échange, c'est tout à fait différent. C'est la même chose pour Dieu. Des fois, on peut savoir des choses sur Dieu, mais est-ce que on a un échange? Est-ce qu'on a une relation? Est-ce que nous sommes dans une relation intime? Est-ce qu'on a cet échange avec lui? Deuxième chose, notre relation à Dieu, à Jésus, elle doit être centrée sur lui. Je ne sais pas si... Donc, on comprend que Dieu veut une relation avec moi, mais pas centrée sur nous-mêmes, parce que bien souvent, moi, j'ai vécu des années comme ça, avec une relation avec Dieu, mais qui était centrée sur moi. Par exemple, je pense à ce jeune homme riche qui dit, « Mais que, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Vous savez, bon, moi, je suis né dans une famille chrétienne, etc., et ben, la question, je me la suis posée aussi, je l'ai posée au Seigneur. « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Mais cette question-là, elle est centrée sur celui qui la pose. C'est moi qui suis le sujet de cette question, c'est pas Dieu. Et justement, nous devons nous détourner de nous-mêmes pour avoir le regard fixé sur Dieu, changer d'orientation, hein, être plus axé sur nous-mêmes, sur nos besoins, nos intérêts, mais on doit être orienté sur Jésus. En langage évangélique, ça s'appelle la conversion. Mais voilà, dès notre voyage éternel avec Dieu, puisque ce voyage éternel commence ici-bas, c'est lui qui doit être au centre et non pas moi-même. Ça, c'est un principe de base. Et c'est important parce que si dès le départ, on est tourné vers nous-mêmes à la conversion, eh bien, si on est mal orienté, eh bien, va découler de toute notre vie avec Dieu un service pour Dieu qui est faussé, une identité avec Dieu, une identité de chrétien qui va être faussée, notre louange, elle va être faussée, etc. Donc, partir sur des bonnes bases. Quand on est centré sur nous-mêmes et qu'on sert le Seigneur, on va, je l'ai fait, hein. Donc, je sais de quoi je parle, mais je veux dire, on va s'occuper de la louange, on va présider, on va s'occuper des jeunes, on va faire 50 millions de choses, et puis finalement, on va avoir beaucoup de fatigue, on va avoir de l'énergie, on va être épuisé, et bien souvent, on travaille, on pédale dans le vide, comme on dit, mais quand Dieu est au centre de nos motivations, quand on a cette relation avec Dieu et qu'il nous a commandé, qu'il nous a dit « fais ça », eh bien notre énergie, notre service va tirer son énergie de lui. On le voit dans Éphésiens 4:16. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, etc., formant un solide assemblage. La première expression, c'est de lui, c'est ça qui est important. C'est de lui. C'est vrai que des fois, j'ai fait cette erreur de tomber dans ce piège de servir comme ça Dieu par moi-même. Et je suis jusqu'à aller, on peut même aller jusqu'à considérer Dieu comme un employeur céleste. Et Dieu, c'est celui qui m'emploie, il me prend là, il me prend là. Et puis après... Comment je le considère ce Dieu ? Je vais le considérer comme quelqu'un qui examine scrupuleusement tout ce que je fais, tous mes actes, pour voir s'ils sont conformes, etc., à ce qu'il veut. Et finalement, ça m'a porté à une conception légaliste de la vie chrétienne, parce que j'avais quoi ? Les yeux fixés sur mes performances. Ouais, je suis un bon chrétien, j'ai un bon service, etc. Mais ça, c'est l'extérieur, ça. C'est pas sa grâce, c'est une conception légaliste, c'est pas une vie centrée sur Dieu. Mais quand on a les yeux fixés sur Jésus, et quand il vit à travers nous, eh bien, on ne va pouvoir ne voir que sa grâce, parce que si elle ne se manifeste pas à chaque instant à travers nous, j'ai presque envie de dire, nous mourrons sur le champ, puisque c'est Dieu, c'est lui qui maintient la vie. Voilà, donc si nous pouvons prendre part à ses œuvres, c'est uniquement par sa grâce, dans sa grâce, et simplement parce que nous recevons sa vie, comme on l'a chanté hein, dans le dernier chant, et qu'il agit à travers nous en exprimant sa vie. C'est ça le bon rôle. Donc ce que je veux appuyer ce matin, vous avez bien compris, c'est que l'essence de la vie chrétienne, ce n'est pas d'accomplir quoi que ce soit, mais c'est de tout simplement vivre en Christ. C'est ce que là, on peut lire dans l'Épître aux Éphésiens, etc. La Bible nous appelle vraiment à ça, vivre en Christ. J'ai parlé de moi, je vais encore parler de moi, donc pardon. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie de chrétien? C'est que, ben oui, on veut vivre conformément à la volonté de Dieu à notre égard. Donc qu'est-ce que je faisais? Je lisais la Bible, je l'étudiais, je prenais des principes, j'essayais de découvrir des principes chrétiens, des principes bibliques, et je m'engageais régulièrement à les observer. C'est bien de faire ça. C'est très bien. Mais bon, à un moment donné, ça plafonne un peu ce truc-là, et je me suis dit, mais est-ce que par ma vie comme ça, cet engagement, par ma raison quelque part et ma volonté, est-ce que je peux obtenir quoi que ce soit de Dieu? On peut faire des belles choses, on peut s'engager dans les plus belles missions, on peut vouloir même vendre sa maison pour Dieu, mais est-ce que je pourrais obtenir quelque chose de lui en faisant cela? Je crois pas, on n'achète pas Dieu, c'est clair. Mais ça s'appelle le vouloir progresser spirituellement par ses propres œuvres. Tant que c'est de moi-même que j'étudie les Écritures, vous comprenez, tant que c'est pas par Dieu, tant que c'est pas, je n'ai pas l'éclairage de l'Esprit, eh bien cette Écriture ne devient pas parole de Dieu. Enfin, c'est un peu mon expérience. Je compare des fois ça un peu à du café. Vous savez, on prend le café en poudre, prenez du café en poudre, puis si vous prenez le café, c'est les Écritures. Si on ne met pas d'eau dedans, s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui vient éclairer, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, eh bien ça ne fait pas du café. Et le café, il est imbuvable. Alors, la connaissance, le savoir biblique, pardon, c'est bien, mais la connaissance de Dieu, ça va beaucoup plus loin, parce que la connaissance, c'est c'est ce savoir qui est transformé avec l'Esprit de Dieu, par sa grâce et par l'amour du Seigneur, qui est transformé en parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle va venir nous toucher et nous transformer au plus profond de notre cœur. Dans Jean 15, 4, il est dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, ah oui, alors j'ai oublié ce verset-là, mais je vais en parler juste après. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La vie chrétienne, ce n'est pas donc un appel simplement à vivre conformément à des principes, même si ça semble admirable. Alors, bien sûr que oui, la Bible, elle contient des instructions sur la manière, même des instructions détaillées sur la manière dont on doit vivre. Mais je dirais que c'est plus des illustrations, des exemples des nombreuses façons dont le Seigneur nous amène à vivre quand on vit à travers lui et quand lui y vit en nous. C'est surtout ça, quand on vit dans sa dépendance. Donc ce verset de « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables » lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Et moi, je me suis posé la question, je disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour être irréprochable lors de ta venue? Parce que irréprochable, le niveau, il est quand même vachement haut. Je dis, mais en plus, esprit, âme et corps, comment je vais faire? Mais le Seigneur, il nous dit, c'est lui qui accomplira tout cela. C'est pas nous qui allons le faire, c'est lui qui va le faire à travers nous. Il y a d'autres versets qui disent, c'est lui qui le fera. Donc ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait, évidemment, si lui vit à travers nous. C'est pour ça, entre parenthèses, qu'on peut parler de la joie du service. Vous savez, des fois, on sert le Seigneur, mais c'est un peu fatigant, ça râle un peu. Mais on peut parler de la joie du service quand c'est lui qui le fait à travers nous. Si c'est moi qui le fais de moi-même, ça fonctionne pas. Donc si vous faites cette constatation que votre service il est lourd et pénible, peut-être se recentrer sur le Seigneur. Quelqu'un a dit, je ne sais pas qui c'est, qui a dit que faire preuve d'obéissance, c'est placer sa confiance en Jésus qui demeure en nous pour qu'il accomplisse les désirs de son Père à travers nous. Je vais le redire. Faire preuve d'obéissance, c'est placer sa confiance en Jésus qui demeure en nous pour qu'il accomplisse les désirs de son Père à travers nous. Alors, est-ce que Jésus nous a montré ce chemin? Est-ce que Jésus, il a fait cela? Dans Jean 14, 8, 11, il est dit, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et là, qu'est-ce qu'on voit? Jésus qui nous dit que les paroles qu'il nous dit, il ne les dit pas de lui-même. Mais c'est le Père qui demeure en lui, c'est lui qui fait les œuvres, c'est lui qui le dit. Jean 14, 24, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » C'est clair, ça. Jésus, il a vécu complètement cela. Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » C'est le Père qui faisait à travers Jésus. Jean 7, 15, 17, il y en a plein de versets. « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi, j'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. » Jean 8, 28, « Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et puis un dernier, Jean 12, 49, 50, « Je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. » Donc c'est très clair, hein, et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Et voilà, Jésus nous a laissé parfaitement le modèle parfait, hein, de ce que doit être un homme, de ce que nous devons être. Et à chaque instant de sa vie sur la terre, il vivait dans la dépendance totale de son Père. Et Jésus, c'est mon modèle. Et si lui, il estimait nécessaire de vivre cette relation avec Dieu, hein, c'est-à-dire que le Père vive à travers lui, mais ô combien pour moi, c'est encore plus vital. C'est très très important. On a lu, Jésus nous fait cette promesse, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul. » Mais donc, finalement, la vie chrétienne, c'est simplement la vie de Dieu qui s'exprime à travers un homme mortel, comme nous sommes, un homme ou une femme, hein, beaucoup de femmes ici. Et donc, nous avons cet exemple suprême en Jésus, qui lui seul a été capable de le faire à 100%. Jésus se laissait travailler, était complètement investi du Père à 100%. Dans Matthieu 18, je crois que c'est pas affiché ça, je me suis posé cette question, pourquoi Jésus il dit à propos des enfants, c'est marqué, dans Matthieu 18, à ce moment même, les disciples vinrent demander à Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont les enfants de plus pour que Jésus, souvent, ils disent, le royaume des cieux leur ressemble, devenez comme des enfants, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Et finalement, il n'y a pas plus dépendant qu'un enfant à ses parents. Un nouveau-né qui est dans les bras de ses parents est complètement dépendant pour la nourriture, pour le vêtement, pour le gîte. Mais un enfant est complètement dépendant. C'est exactement ce que Jésus veut que nous fassions avec notre Père dans le ciel. Il veut que nous soyons complètement dépendants. Alors, la dépendance suprême, Jésus l'a eue, c'était la dépendance, oui, du gîte, la dépendance des vêtements, hein. Vous connaissez tous ces versets que Jésus a dit, et puis aussi pour la nourriture, de ne pas s'inquiéter du lendemain, etc. J'en suis pas là, je vous rassure. Mais voilà, je voudrais vous exhorter ce matin à ce qu'on puisse faire confiance à Jésus, parce qu'il veut faire une œuvre à travers nous. Et son œuvre, elle se manifeste à travers nous que lorsqu'on est dans cette connexion totale avec le Père. Et la vie chrétienne victorieuse, c'est pas une vie, c'est pas une victoire que l'on gagne par nos propres efforts, mais simplement on est victorieux quand le Seigneur a pris totalement sa place en nous. Hein, la victoire, on la gagne pas, on la reçoit, la victoire, en Christ. Pourquoi l'Esprit de Dieu vient habiter en nous quand on expérimente cette nouvelle naissance? Dans Jean 14, il est dit « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Donc, c'est l'Esprit de vérité, etc. « Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. » Et il sera en vous. Voilà. Afin qu'il reste pour toujours avec vous, et il sera en vous. Mais pourquoi le Seigneur, pourquoi l'Esprit de Dieu vient demeurer éternellement avec nous? C'est quelque chose de grandiose, de magnifique. Est-ce que c'est que pour que juste nous puissions aller au ciel? Je crois que Jésus aurait très bien pu nous sauver sans nous donner son esprit. Peut-être je fais une erreur théologique, je ne sais pas, j'exagère un peu. Mais est-ce qu'on a besoin de son esprit en nous pour simplement aller au ciel et venir à l'église? Je crois que c'est simplement pour que la vie de Dieu, elle vienne habiter en nous par le Saint-Esprit, par le Seigneur, et pour que cette vie se manifeste à travers nous, hein, et autour de nous, surtout autour de nous. Donc la vie chrétienne, c'est une vie où le Saint-Esprit est libre d'agir par nous, en nous, pour que Christ puisse vivre et agir dans ma vie. Voilà, hein, Paul il le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi, et tout cela grâce au Saint-Esprit qui le réalise. Alors, c'est vrai que comment on peut obtenir que Christ habite en nous, puisque nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes? Eh bien, pour vivre cette vie, eh bien oui, il faut s'abandonner sans réserve. Tous nos efforts, on doit se calmer. On doit s'abandonner au Seigneur, c'est l'abandon de nos désirs, de nos efforts, c'est la démission de notre raison. Peut-être se désister de sa vie naturelle et abandonner notre propre voix et l'écouter, écouter la voix du bon berger. Jésus, il dit que son disciple, son enfant, il connaît le son de sa voix. Mais c'est ça, c'est se désister de sa vie naturelle pour écouter la voix du bon berger. Donc mourir à soi-même pour revivre avec Christ. Dans Matthieu 16, 25, il est dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et puis, à un moment donné, quand Paul avait prié 3 fois pour que Satan s'éloigne de lui, il dit, le Seigneur lui répond, et il lui dit, ma grâce te suffit. car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Paul y va dire qu'il se plaît jusqu'à se plaire dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand je suis faible, quand je me suis abandonné, quand je me suis lâché, quand, eh bien, c'est là que le Seigneur vient. Hein. Dieu, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ça va? Je n'ai pas un ton trop monocorde, parce que souvent on me dit « Oh, tu nous endors un peu, là. » Donc, Alors, les obstacles à cette vie. Ben, évidemment, le péché. Le péché sous toutes ses formes. On ne va pas faire la liste de tous les péchés, parce que ça serait trop long. Mais dans notre société, en France, vous savez qu'en France, on est axé sur la raison, c'est pour ça que je parle un peu de la raison dans notre être naturel. En Italie, c'est plus l'émotion, en Allemagne, c'est la volonté. On a dans notre âme, dans nos cultures, on met des accents particuliers sur certaines caractères que l'on a plus spécifiquement. Mais donc, dans notre, pour les obstacles à cette vie, un des péchés que j'ai noté, c'est évidemment le matérialisme. On est à bloc. Hein. On est à bloc hein. Sur le matérialisme, la maison, la voiture, les vêtements, etc. Mais en plus, en France, on est dans une région particulièrement matérialiste. Hein. Le 06, la région PACA... On va dans d'autres régions, c'est pas comme ça. Hein. Je développe pas. Il y a un autre péché que j'ai noté aussi, c'est l'autosuffisance. Parce qu'on aime bien notre petite sécurité. Mais le premier obstacle à cette vie avec le Seigneur, c'est moi-même. C'est pas mon voisin, c'est pas l'Église. Hein. C'est pas les responsables d'Église, c'est pas les autres. Hein. Le premier responsable, c'est moi-même. Parce que j'ai l'habitude de fonctionner tout seul, parce que je sais très bien me débrouiller tout seul, et je préfère m'appuyer sur moi que... Voilà, parce que je compte sur moi-même, sur mes facultés, sur ma raison, sur mes études, sur mon métier, etc. Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. C'est important d'étudier, etc. Et, je veux dire, Dieu nous donne l'occasion de faire des études, etc., il faut le faire. Mais ça ne doit pas avoir la première place. La différence, elle est là. Donc, nous devons mettre notre confiance en Dieu en premier, avant tout, et sur nos aptitudes humaines et nos capacités que nous avons, en second. Mais c'est dans cet ordre-là. Hein. Comme un enfant le fait avec ses parents. Exactement pareil, dans le même schéma. Alors, on ne va pas aller plus loin dans les obstacles. Je crois que chacun, on peut la faire, la liste. Mais parler d'abord, ce sera ma conclusion, de ce que c'est que vivre en Christ. Alors là, j'ai pompé un peu, hein, à droite, à gauche. Mais vivre en Christ, c'est vivre les réalités du ciel sur la terre. C'est manifester à chaque instant et dans toutes circonstances ce que Christ a fait pour nous. Vous imaginez vivre les réalités du ciel sur la terre? On est déjà dans le royaume de Dieu. Dieu nous a fait déjà rentrer dans ces réalités invisibles. Mais là où la foi, elle devient... elle est en action... C'est qu'elle ramène cette réalité invisible, la foi ramène cette réalité à la réalité visible. C'est la rencontre de ces deux mondes, c'est la foi qui opère ça. Et ça, c'est magnifique. C'est chaque jour réaliser pleinement sa grâce et la découvrir pour la vivre. C'est retrouver notre liberté en Dieu. Parce que ce monde, quand je vis dans le matérialisme, quand je vis par moi-même, je la perds, cette liberté. Parce que la vraie liberté, c'est pas faire ce que je veux non plus, hein, mais c'est retrouver notre vraie condition de créature de Dieu en relation avec le Père. C'est ça, la vraie liberté. Comme Dieu l'avait prévu dès le départ, hein, au Jardin d'Éden. Vivre en Christ, c'est vivre en ayant compris que Jésus est notre sainteté, pour que nous puissions vivre notre véritable identité en Jésus. C'est le Dieu qui a dit « Je suis ». C'est vrai que quand je cherche à savoir qui je suis, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais quand je me regarde à travers Dieu, à travers celui qui est l'identité même, à travers celui qui a dit qu'il est, eh bien, c'est là que je vais me découvrir. Et ma vie, elle prend un sens quand je vibre comme une créature, quand je vibre au diapason de Dieu, de ce qu'il avait prévu dès le départ. Ma véritable identité, elle est là. Vivre en Christ, c'est découvrir chaque jour, au travers de sa parole, la magnificence de Christ. Parce que la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une parole qui est pour moi. Quand je me suis rendu compte, il y a quelques années, j'ai fait une drôle d'expérience, tout d'un coup j'ai eu un rejet des Écritures. Ouf, terrible pour un responsable d'Église. Ben oui, je le confesse. Pourquoi ? Parce que je lisais la Bible pour avoir raison. J'étais rentré dans une espèce dans une relation un peu tordue, là j'étais dans une mauvaise passe, quoi. Et donc il y avait des petits soucis dans l'église, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Ben j'ai voulu chercher à lire la Bible. Mais en fait, finalement, je lisais pour avoir raison, quoi. Et j'ai dit à mes frères anciens, j'ai dit mais c'est fini, je lis plus la Bible pour avoir raison. Maintenant, je lirai la Bible uniquement pour que le Seigneur me parle. Uniquement pour ça. Découvrir chaque jour au travers de sa parole la magnificence de Christ et être comblé par son amour. Réaliser pleinement son amour pour moi, qui développe ma confiance en lui pour être en paix. C'est tout un programme. Et ça, cet amour de Dieu, quand on le reçoit de Dieu, eh bien cet amour, il va se décupler pour les autres. Évidemment que vivre en Christ, c'est développer un intéressement à la Bible, évidemment. Et on va l'étudier, et puis il va y avoir un engouement pour les Écritures, et les Écritures vont avoir de plus en plus de goût. Puis on va vouloir en savoir le plus possible sur Dieu pour grandir, parce que notre foi, elle est là, mais elle est aussi dans la raison, mais elle est dans les deux, en fait. Parce que quand on a la foi, c'est la raison et le cœur qui se rejoignent, et c'est les deux qui vibrent ensemble. Donc on va vouloir comme ça, comme cela, se rapprocher le plus possible de Dieu. Vivre en Christ, c'est s'entraîner à rester attaché à Dieu pour parvenir à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Alors il est intéressant ce verset-là parce que l'état d'adulte, c'est pas avoir fait 10 ans d'études théologiques. Attention, c'est bien de le faire, je dis pas que c'est pas bien. Mais on peut avoir la plénitude de Dieu simplement parce parce que Christ se manifeste à travers nous. C'est ça l'état adulte. À un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Saint Timothée 4:7, ça. Et puis Éphésiens 4:13. Vivre en Christ, c'est découvrir d'une manière personnelle que ce qui est essentiel finalement dans sa vie, c'est Christ. Ça, c'est essentiel. Et si je peux vivre une vie chrétienne, c'est encore parce que lui m'en donne la force. D'ailleurs, on devient de ces personnes qui communiquent la vie parce que justement cette vie, elle ne vient pas de nous, mais parce qu'elle vient bien de lui. Sinon, notre vie, elle se communique pas beaucoup, mais la sienne, elle se communique. Vivre en Christ, c'est expérimenter la joie et la paix de Dieu. Juste ça. C'est expérimenter la joie et la paix de Dieu. Quand on est en relation avec le Seigneur, il y a sa paix qui nous envahit, il y a sa joie qui arrive. On est en sécurité quand on est avec le Seigneur et on est sûr de ce qu'il est. Et ça nous donne des ailes, hein, évidemment, pour vivre ici et pour le servir avec les dons qu'il nous accorde. Quand on vit en Christ, on ne vit pas dans le présent, on ne vit pas dans le passé, excusez-moi. On ne ressasse pas forcément les choses du passé, etc., et nanani, et nanana. Mais on vit dans le présent, on ne vit pas non plus dans le futur, mais on vit pleinement son présent. Hein, parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui se vit au jour le jour. Vivre en Christ, c'est prier facilement en toutes circonstances. Quand on vit en Christ, il y a une crainte respectueuse de Dieu qui se développe, une sagesse qui nous permet de reconnaître qui est l'Éternel. Et on sait se situer. On reste humble par rapport à Dieu, humble par rapport à sa révélation, humble par rapport à ses frères et ses sœurs. Et pourtant, en même temps, on se sent valorisé de Dieu. Et pourtant, son amour qui nous pénètre nous met en sécurité. Et on a cette profonde certitude qu'en nous, on se sent aimé, on est affectivement aimé de lui et valorisé. Et on se rend compte que l'adoption en tant que fils, c'est une réalité. Fils et fille du Père Céleste. Et évidemment, quand on est en Christ, eh bien, on a envie de louer le Seigneur. On loue avec joie, on aime chanter. On aime écouter des bons chants qui rendent gloire à Dieu. Et dans sa présence, on écoute Dieu. Voilà, donc c'est peut-être pas un processus automatique, je reconnais. Mais c'est un processus qui nécessite une remise en question. Il faut peut-être nous déshabituer de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Et surtout, quand on vit cette vie avec le Seigneur, ben c'est vrai que ce n'est pas visible de l'extérieur. Il n'y a pas besoin de feindre qu'on est spirituel, j'ai envie de dire, parce que le changement, ça ne se voit pas forcément de l'extérieur. Hein, le changement de source. Et quand on le vit de l'intérieur, c'est autre chose. Quand on le vit de l'intérieur, on ne se trompe pas, on sait que c'est le Seigneur qui agit. Hein, parce qu'on voit l'œuvre de Dieu s'accomplir. Bon, il y a un changement dans la vie de la personne aussi, hein, mais dans l'immédiat, c'est peut-être pas, ça se voit peut-être pas. Alors, puissions-nous prendre un nouveau départ si on n'était pas dans cette perspective-là, le placer en premier dans nos vies, rechercher sa face et lui laisser toute la place dans nos cœurs. Et je finirai juste avec Galates 2:20, si tu peux l'afficher. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Amen.